Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour. Heureux de vous retrouver à Canal Académie, à l'Institut de France, pour une nouvelle émission des rendez-vous économiques du Cercle Turgot avec nos deux experts, Nicolas Bouzou, qui est le vice-président du Cercle Turgot et président d'Asterès, et Pierre Sabatier, qui est président de PrimeView. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Merci d'être ici sur notre antenne à nouveau pour traiter d'un sujet d'une grande actualité, les jeunes et la crise. Alors, c'est une actualité double puisque Nicolas Bouzou, vous venez de faire paraître avec Luc Ferry, qui préside la...
Conseil d'analyse de la société.
Exactement, je cherchais le terme exact. Un rapport qui a été remis au Premier ministre tout récemment et qui traite précisément de ce sujet, la politique de la jeunesse, et qui est paru simultanément chez Odile Jacob, où chacun peut se le procurer, je crois pour le prix de 12 euros, si je me souviens bien. Hein, très bien. Voilà. Alors donc, une parution en plein dans l'actualité, et qui rejoint une autre préoccupation, qui est celle plus particulièrement de Pierre Sabatier, sur le grand sujet de la démographie.
Absolument, et ses interactions sur nos modèles de société, je crois que ce sera un sujet d'actualité, même si c'est souvent considéré comme une toile de fond.
Voilà. Alors, très brièvement, pour rappeler le contexte, après les crises du XXIe siècle, prospère une nouvelle génération de jeunes, une génération dite « boomerang », c'est-à-dire pratiquant des allers-retours avec leur cercle familial, redevenue par nécessité l'assurance du dernier recours à laquelle ils se voient contraints de sacrifier leurs aspirations légitimes d'autonomie et leur indépendance de jeunes adultes. Les conséquences de cette crise sont donc doubles pour la jeunesse. D'une part, précarité d'emploi et chômage avec des taux records dans la plupart des pays occidentaux pour les tranches d'âge les plus vulnérables, 35% en Espagne, 25% pour les 20-25 ans aux USA. Et ceci est tout autant vrai, ce qui est un paradoxe pour les jeunes diplômés que pour les jeunes adultes. D'autre part, c'est leur style de vie qui est impacté au plus profond, c'est-à-dire dans leur identité et dans leur sensibilité. Les contraintes économiques et financières conduisent de nombreux jeunes à partager l'espace familial de façon croissante et les tanguis sont loin de représenter les adolescents simplement attardés, mais surtout comme en Espagne, qui atteint des durées records, 35 ans, de jeunes adultes qui n'ont d'autre choix à leur grand désespoir. Les conséquences sur le moral et la foi dans l'avenir de la jeunesse sont à la fois lourdes et croissantes, tant pour eux-mêmes que pour la société au plan sociologique et économique. Sans confiance, il n'y a pas de croissance durable. Qu'en est-il en France? C'est précisément la question que je pose donc à Nicolas Bouzou. Quel est votre constat à l'issue de ce rapport?
Alors, le constat, déjà, c'était celui du gouvernement, et c'est la question du gouvernement qui consistait à dire, finalement, on a l'impression de faire beaucoup de choses pour les jeunes, mais les enquêtes d'opinion réalisées auprès des jeunes montrent qu'ils n'ont pas confiance. Ou en tout cas, ils ont confiance en eux-mêmes, heureusement, parce que ce sont des jeunes, mais ils n'ont pas confiance dans leur pays. Et vous avez une enquête qui a fait vraiment beaucoup de bruit et qui a beaucoup interrogé le gouvernement, qui a été réalisée par la Fondation nationale pour l'innovation politique, qui a demandé aux jeunes d'un très grand nombre de pays: est-ce que vous avez confiance ou pas dans votre pays? Et la France est arrivée dernière à égalité avec la Grèce. Et évidemment, c'est un résultat qui est extrêmement spectaculaire. Et donc, la question à laquelle on a essayé de répondre, c'est d'une part, est-ce que c'est justifié? Et d'autre part, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, est-ce que c'est justifié? Oui, si on considère que, bien sûr, le niveau de vie des jeunes est beaucoup plus important aujourd'hui qu'il ne l'était dans les années 60. Un jeune de 2012 vit mieux qu'un jeune de 1960, même si on était au début des Trente Glorieuses. Mais en même temps, les inéquités avec le reste de la société se sont creusées. Et vous avez un certain nombre de travaux en économie qui ont montré que ce qui génère de la confiance, ce qui peut poser problème, c'est en réalité la question de l'inéquité. C'est-à-dire qu'on se compare, non pas par rapport à des générations précédentes, mais on se compare par rapport à ce qu'on voit. Et ce que voient bien les jeunes, c'est que leur niveau de vie relatif par rapport à l'ensemble de la population, ou même par rapport aux jeunes seniors, a eu, lui, tendance à se dégrader. Et ça, vous le voyez très bien, enfin, vous en avez une illustration, en tout cas, dans deux domaines. Le premier domaine, c'est celui du marché du travail. Bien évidemment, chacun sait bien qu'en France, l'accès des jeunes au marché du travail est extrêmement compliqué. Et le marché du travail, de ce point de vue-là, fonctionne comme une machine redistributive à l'envers. Hein. C'est-à-dire que quand vous avez un taux de chômage élevé, en réalité, il n'est pas élevé pour la totalité de la population. Et si j'ai envie de caricaturer, en France, le marché du travail, il est très, très, très efficace pour ceux qui ont entre 40 et 45 ans, ou 40 et 50 ans, où là, on a un taux d'emploi très élevé et quasiment pas de chômage. En revanche, on a beaucoup de chômage chez les jeunes et chez les seniors. Et puis, une autre illustration, vous la voyez dans le domaine du logement. Si vous regardez ce qu'on appelle les taux d'effort, c'est-à-dire les dépenses de logement rapportées aux revenus Bien évidemment, au niveau global, macroéconomique, chacun sait que ce sont des chiffres qui sont en très forte augmentation depuis 10 ans. Mais si vous les regardez par génération, vous vous rendez compte qu'ils ont augmenté en réalité quasiment uniquement pour les jeunes. Et donc, c'est comme si la jeunesse avait absorbé en elle-même ou avait payé toutes les déficiences de notre politique de logement ces dernières années. Donc, il y a une justification, malgré tout, à ce malaise.
Est-ce que ce phénomène n'est pas encore plus accentué dans les grandes métropoles urbaines, par exemple ?
Alors,
je pense que Paris, notamment, doit synthétiser encore plus.
Alors, quand on regarde les problématiques d'accès à l'emploi des jeunes, on voit que en réalité, les bassins d'emploi qui souffrent le plus, ce sont ceux qui souffrent le plus,
sur lesquels souffle un vent mauvais.
Oui, peut-être. Ce sont ceux qui ont affaire vraiment à des problématiques de montée en gamme de leur industrie, et il faut bien le dire, pour l'heure en tout cas, de désindustrialisation. Donc, on va retrouver ça plutôt en Champagne-Ardenne, en Lorraine, bien évidemment, Nord-Pas-de-Calais, Bourgogne, etc. Alors, c'est vrai qu'à Paris, on n'a pas une croissance économique qui est celle d'une grande métropole, qui est celle que devrait avoir en tout cas une grande métropole. Et là, évidemment, la question des infrastructures se pose. Mais je crois que plus globalement, l'un des enseignements de ce rapport, ça a été de dire, quand on veut aider les jeunes, on met en place des politiques pour les jeunes. Et ça, c'est peut-être une erreur. C'est peut-être une erreur parce que d'une part, souvent les jeunes n'en veulent pas d'ailleurs, parce qu'ils considèrent que c'est stigmatisant. Mais d'autre part, en réalité, les jeunes sont les victimes non pas de politiques anti-jeunes. Et comme le montre très bien Luc Ferry dans la partie qu'il a rédigée, en réalité, les vieux n'ont jamais autant aimé les jeunes dans notre pays. Et parfois, sans doute à l'excès d'ailleurs, puisque le sentiment de Luc Ferry, en tout cas, c'est que parfois on les couvre trop. Donc c'est... le problème ne se pose pas dans ces termes. Le problème, c'est qu'on a mené des politiques économiques assez malthusiennes en matière d'emploi, en matière de logement, qui se retournent contre les jeunes, mais sans qu'on l'ait voulu. Et donc la conclusion de ce rapport, finalement, serait de dire « faisons de bonnes politiques, pas forcément ciblées sur les jeunes, mais faisons de bonnes politiques de logement, construisons des logements, etc. » Et les premiers bénéficiaires seront les jeunes.
D'accord. Alors donc, ceci me permet de voir maintenant avec Pierre Sabatier les aspects démographiques. Alors on sait que l'Europe est menacée de devenir vieille rapidement. Est-ce que la situation française, elle, est de nature à générer un peu plus d'optimisme ou pas, et notamment par rapport à la crise qui pèse sur les jeunes?
Comme l'a très justement souligné Nicolas Bouzou, effectivement, aujourd'hui, les jeunes n'ont plus confiance en leur avenir. Maintenant, l'avantage, c'est que le bonheur étant relatif, notre situation démographique est légèrement plus favorable à celle de nos voisins, qu'ils soient en premier lieu allemands ou encore italiens. Mais la réalité, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, effectivement, je pense qu'une des solutions, parce qu'on va bien sûr dresser un diagnostic, mais ça, à la limite, tout le monde pourrait le faire, mais quelles sont les solutions ? Dans un premier temps, avoir des politiques globales, effectivement, et gérer en réalité systématiquement des problèmes individuels auxquels on va essayer de répondre. La réalité, c'est qu'on ne trouvera pas de solution à ce vieillissement si on, à chaque fois, on va viser une petite mesure qui va favoriser tel ou tel type d'emploi ou tel type de logement. Je prendrai effectivement l'exemple de l'immobilier. Là, on fait face, entre guillemets, à une erreur de politique économique terrible effectuée au cours des 20 à 30 dernières années de soutien des prix. Qui pâtit le plus, entre guillemets, de prix de l'immobilier qui sont extrêmement élevés ? Bien entendu, ceux qui ne possèdent pas de biens immobiliers. Et donc, à nouveau, l'effort à réaliser pour les primo-accédants, ceux qui ne possèdent pas de logement, est aujourd'hui extrêmement élevé. Et ça, c'est mauvais. C'est mauvais à la fois parce que ça précarise la situation du consommateur, qui est un jeune cadre, un jeune couple, qui est quand même dans une dimension où lui, il a à acquérir, gérer tout ce qui est nécessaire pour bien vivre. Mais c'est aussi néfaste pour le marché de l'emploi. Et ça, on ne le dit pas assez. C'est des prix immobiliers trop élevés, un marché du logement qui est difficilement accessible pour les primo-accédants. En général, ça fait quoi ? Ça augmente le taux de chômage structurel. Le taux de chômage structurel, c'est le taux en deçà duquel il est difficile, pour quelles que soient les politiques économiques menées, de descendre parce que, je dirais, l'offre de travail ne répond pas à la demande. Je m'explique en deux mots. Aujourd'hui, si vous êtes propriétaire de votre logement, ce qui est le cas de beaucoup de monde en France, même si c'est un petit peu moins le cas que dans nos pays voisins, vous perdez votre emploi, et bien vous avez une propension moindre à déménager, à aller chercher l'emploi là où il se trouve, si vous êtes propriétaire. Parce que dans un marché qui est un petit peu grippé, un, c'est difficile de vendre sa maison, deux, c'est difficile d'accéder à la propriété, notamment si vous venez d'une zone rurale, où en général les prix de l'immobilier ont moins flambé, et que vous devez transférer votre activité dans une zone urbaine où les prix ont flambé. Vous comprenez bien, même l'arbitrage de vente de maison dans une zone rurale pour aller soit acquérir, soit même louer un bien dans une zone urbaine est extrêmement compliqué. Donc très clairement, une des mesures pour soutenir l'effort en faveur des jeunes, c'est très clairement arrêter des politiques fiscales toujours en de soutien des prix de l'immobilier et du secteur de la construction pour essayer de rendre le marché du logement plus accessible aux jeunes et ainsi aller permettre à ces jeunes-là d'aller chercher l'emploi là où ils se trouvent.
Juste pour prolonger d'un mot à ce que vous indiquez en termes de solutions, on voit poindre des propositions qui sont assez originales, qui à la limite touchent au droit de propriété, qui consistent à dire Eh bien, quand un propriétaire occupe son appartement, c'est comme s'il ne payait pas un loyer et donc il devrait être pénalisé fiscalement. Absolument. Sur ce point. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette proposition ?
C'est une proposition qui a été émise par quelqu'un qui s'appelle... J'aime beaucoup, hein, Thomas Piketty, qui fait d'excellents travaux, mais là, pour le coup, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je crois que je vois l'idée qui est derrière ça, hein, qui consiste à dire, finalement, on va récupérer des recettes fiscales et ça permettra de ne pas trop toucher aux dépenses, et en particulier aux dépenses sociales. Moi, je crois au contraire, et je ne m'éloigne pas d'ailleurs de la question des jeunes, parce que les jeunes sont aussi très, très inquiets de la question des déficits et de la dette publique. C'est-à-dire qu'ils ont en quelque sorte le sentiment que la génération d'avant a fait monter la dette publique au détriment des jeunes. Ce qui est encore, hein, bien évidemment, la génération des baby-boomers n'a pas voulu faire monter la dette publique. Mais disons que, en tout cas, c'est vrai que depuis la fin des années 70, on a eu très clairement un dérapage de la dette publique, en grande partie en raison des comptes sociaux. Hein. C'est-à-dire justement que ce sont ces fameux baby-boomers qui, sous forme de dépenses de santé, de retraite, en bénéficient. Bon, mais il n'y avait pas de volonté délibérée, hein, je le répète, parce que je ne veux surtout pas entrer dans cette idée de conflit de génération qui est fausse. Mais je crois qu'au contraire, si on veut soulager le fardeau des générations actuelles et futures, je crois que ce n'est pas le matraquage fiscal qui, à long terme, est la solution. Je crois que ce sont plutôt des réformes, et notamment, moi, vraiment, je lance un appel pour une grande réflexion sur les systèmes de santé. Système de retraite, je dirais que c'est déjà fait. Tout le monde a bien compris à quelle sauce on allait être mangé. En grosso modo, tout le monde comprend bien que d'une façon ou d'une autre,
il faut travailler plus longtemps.
Après, on ne peut pas être d'accord sur les détails, mais les systèmes de santé... Question énorme. Hein. Enfin, je veux dire, en 2050, les systèmes de santé, c'est 20% du PIB, c'est le double de la retraite. Hein. Donc c'est très, très, très important. Et là, il faut vraiment qu'on lance dès maintenant cette grande réflexion.
Absolument.
Un dernier mot, Pierre Sabatier.
Tout à fait, pour rebondir, je dirais même, les baby-boomers n'ont encore rien coûté. La réalité, c'est qu'ils vont commencer à coûter, parce qu'on sait que là, on parle de jeunes, mais le problème d'avenir de demain, c'est d'abord le vieillissement. Et donc, les baby-boomers ne commencent que à partir gérer à la retraite. Et surtout, on le sait, l'espérance de vie a beaucoup augmenté. L'espérance de vie sans handicap n'a quasi pas augmenté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des dépenses publiques inhérentes au système de prise en charge de santé, effectivement, de nos populations, on va leur dire énormément les dépenses publiques dans les années à venir. Donc très clairement, il faut aujourd'hui, j'irai remettre la partie au milieu de la table et réfléchir à des modèles de société, des modèles de prise en charge qui seront plus adaptés à la structure de la population, qui sera fondamentalement plus vieille, avec une pyramide des âges à sa base qui sera relativement minime et auquel il faudra soulager le fardeau, je dirais, d'une population trop vieille, quitte à l'étouffer. Donc voilà, attention à ne pas étouffer les jeunes, parce que sans jeunes, vous n'avez pas ni d'innovation, ni de productivité, ni de croissance. Et demain, sans croissance, soulager le fardeau de la dette sera compliqué.
Alors un constat qui est donc très clair, qui nécessite, et c'est l'objet de votre rapport, une politique de la jeunesse ambitieuse, qui est donc le grand défi non seulement de la France, mais aussi de l'ensemble des pays occidentaux qui sont tous menacés par le vieillissement et qui, on l'espère, cette politique de la jeunesse pourra transcender toute les sensibilités, car ça ne peut être qu'une politique nationale sur le sujet. En tout cas, bravo pour ce rapport. Il est donc disponible chez Odile Jacob et accessible à tous nos auditeurs.
Absolument.
Encore merci, messieurs. Merci au Cercle Turgot et à très bientôt. Merci.
Au revoir.